Team Radio.
Des émissions et des études bibliques vous sont présentées sur
GVA.
Et là pour vous fortifier.
Et vous encourager.
Et vous encourager.
Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, Jésus. Te connais. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur.
Bonsoir à vous tous, auditeurs et auditrices de la radio de l'Évangile africain, de l'espérance et de la différence. Bienvenue à l'heure de l'émission Études sur Cantique. Nous sommes encore présents, nous sommes encore ici dans ce studio pour étudier avec vous un cantique qui a rapport avec une des doctrines de la parole de Dieu, une doctrine qui nous est chère dans cette émission. Je vous laisse écouter la chanson. La chanson, elle est en anglais et aussi en français, mais on va commencer avec la version anglaise de cette mélodie, de cette chanson.
What I long for, holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want for me.
Oh,
chant que nous aurons à étudier cet après-midi dans cette émission est intitulé « Holiness, Holiness, Holiness ». Rien que toujours et pour toujours, Holiness. Alors, nous allons de l'autre côté, d'abord saluer l'autre Laurent, le frère Laurent. Laurent, bonsoir.
Bonsoir, Olivier.
Holiness est la chanson qu'on va étudier cet après-midi dans cette émission Études sur Cantique. Holiness qui nous tient à cœur, la sainteté bien sûr qui nous tient à cœur dans cette émission.
Oui.
La sainteté est fondamentale et vous l'aurez compris, qu'est-ce qui est dit dans la parole, qu'est-ce qui est dans la chanson, on le verra au cours de cette émission. Que dit le compositeur dans cette chanson, on le verra au cours de cette émission. Alors, l'autre Laurent, quelles sont les paroles du chant Holiness en anglais?
Bien, en anglais, nous avons ceci. Holiness, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want for me. Righteousness, righteousness is what I long for. Righteousness is what I need. That's what I need. Righteousness, that's what you want. That's what you want. That's what you want for me. So take my heart and mold it. Take my mind and transform it. Take my will, conform it to yours. Brokenness is what I long for. Brokenness is what I need. Gotta be broken. Brokenness, brokenness, that's what you want for me. Take my heart and mold it. Take my mind. Take my mind.
Voilà, ce sont là les paroles de la chanson
en anglais.
On peut avoir les paroles aussi
en
français.
En français, sainteté, sainteté je désire, sainteté dans ma vie, sainteté tu cherches en moi, une vie de sainteté. Vérité, vérité dans ma vie, vérité dans ma vie, je désire vérité. Tu cherches en moi une vie de vérité. Oui, prends mon cœur, Seigneur, et forme-le. Mes pensées, transforme-les, ma volonté, conforme-la à la tienne, Seigneur. Brisement, brisement dans ma vie, brisement, tu cherches en moi une vie brisée. Sainteté, sainteté, je désire, sainteté dans ma vie, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté. Là, à ce niveau, pour plus d'éclaircissement, le décliné en français que vous venez de suivre, ça peut se rendre comme ceci. Être saint. Être saint, telle est ma prière, c'est mon désir. C'est ce que tu veux pour moi. Telle est ma prière, c'est mon désir. C'est ce que tu veux de moi. Être juste, telle est ma prière, c'est mon désir. C'est ce que tu veux pour moi. Prends mon cœur, restaure-le, prends ma vie, transforme-la, mon esprit, et change-le. Fais-le, Seigneur. Brise-moi, telle est ma prière, c'est ce que tu veux pour moi. Prends mon cœur, restaure-le, prends ma vie, transforme-la. Mon esprit, et change-le. Être saint, oui, être saint. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. C'est ce que tu veux pour moi. Je veux être saint.
Très bien. Ça, c'est la traduction. Tu as réadapté la version française.
Oui, bien entendu.
Voilà. C'est bien vrai qu'au cours de cette émission, nous aurons à vous jouer la version française de cette chanson. Mais en attendant, on est toujours avec la version anglaise de Holiness.
What I long for, holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want for me,
holiness, holiness, it's what you want for me.
Nous revenons dans ce studio. Alors, l'autre Laurent, avons-nous des informations sur l'auteur de la chanson? Connaissons-nous l'auteur de la chanson? Qui est-il?
Oui, l'auteur c'est Micah Kate Stampley.
Micah Kate Stampley, ok.
Micah, bon, en français ce sera Miché.
Miché, voilà.
Kate Stampley. C'est un auteur, compositeur, interprète et acteur de gospel américain. Il est né le 7 novembre 1971 à Los Angeles, en Californie, cinquième de huit enfants de Richard, c'est-à-dire le père, et de Delmarie, la mère, tous doués pour la musique. Peu après sa naissance, la famille a déménagé à Baton Rouge, en Louisiane, où Stampley grandit. Il était évident dès lors, dès son plus jeune âge, que Stampley avait un grand talent. Ses parents commençaient à partager ce talent avec la communauté alors qu'il n'avait que 4 ans, en lui permettant de rejoindre la chorale de leur église. Et il avait un talent évident pour la musique qui a été remarqué par la famille, et il a commencé à diriger la chorale de l'église alors qu'il n'avait que 7 ans. Il savait déjà comment enseigner aux autres les harmonies et les arrangements vocaux. À l'âge de 13 ans, Stampley et son frère Nathanael, qui était non seulement son meilleur ami, mais aussi son partenaire musical, officiaient tous deux en tant que ministre de la musique dans l'église de leur père. Mais en 1994, Nathanael a été tué dans un accident bizarre. Cette perte a laissé Stampley dévasté et sans direction pendant plusieurs années. Lorsqu'il a reçu l'appel de Earl Johnson, évangéliste de renommée nationale, alors il a trouvé en cela un rayon de soleil qui allait le guider dans ses premiers pas hors de l'obscurité qu'il avait enveloppé à cause du décès de son frère. Donc il a accepté l'offre et il a passé 3 ans dans l'église du pasteur en Californie, en faisant des comédies musicales gospel, des croisades. Puis un autre appel lui parvint, c'est celui de son père, mais en même temps l'appel de Dieu lui demandant de revenir au pays, de revenir dans l'église de ses parents. Donc il est retourné, et quand il est retourné, c'est là qu'il va rencontrer Heidi Jones, qui est aussi une artiste gospel, et va l'épouser. Et de cette union vont naître 5 enfants. Il faut rappeler que elle a joué un rôle déterminant dans la carrière de son mari en écrivant plusieurs chansons dans le premier album du couple. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que la voix de Mike a une gamme de plusieurs octaves qui s'étend des basses profondes au niveau de la première soprano. C'est quelque chose de très rare, et c'est l'une des caractéristiques qui l'ont rendu si populaire et respecté dans l'industrie musicale. Il était également un prédicateur, bien entendu. Lorsque les fans adorent écouter sa musique gospel, derrière le message qu'il transmet, il y a, à travers sa voix polyvalente, l'homme formé pour répondre aux besoins spirituels de son public, tout en les divertissant par la musique. Donc il a travaillé dur et fait preuve d'un grand dévouement à l'égard de sa foi chrétienne et de la transmission du message d'espoir aux gens. Alors, au cours d'une interview accordée à Contemporary Black Biography, CBB, il déclare qu'il n'avait aucune idée de la rapidité avec laquelle Dieu allait agir dans sa vie. Quand vous comparez la période où il broyait du noir, les choses n'étaient pas ce qu'il voulait et tout. Et il dit, j'ai essayé pendant tant d'années, mais je pense que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin quand vous êtes prêt. Quand il sait que vous ne vous laisserez pas monter à la tête et que vous n'oublierez pas le ministère. Je crois que Dieu m'a regardé et m'a dit, maintenant, je peux te faire confiance. D'accord? Donc là, quand c'est un homme très connu, un talent incomparable, si on doit le dire. Mais de ses propos, on retient ceci: je reste fidèle au message que j'ai toujours eu, à savoir l'amour de Jésus. Mes chansons vous ramènent toujours à la croix, avec chaque album que j'ai enregistré. Le Seigneur m'a donné la sagesse de conserver ce message et d'en faire une présentation différente. J'aime la diversité, j'aime aussi avoir un son global. J'ai toujours voulu toucher des gens de tous horizons, de différents pays. C'est un honneur de recevoir des invitations des endroits comme Dubaï et l'Irak et de savoir que vous faites votre part pour toucher le monde. Jésus vous aime, peu importe d'où vous venez, ne le fuyez pas, n'ayez pas honte de ce que vous avez fait dans votre vie, son amour ne manquera jamais, le sang de Jésus ne perd jamais sa puissance, rien ne peut polluer le sang, le temps ne peut diminuer la puissance du sang, son sang est toujours aussi fort qu'il était au calvaire, son amour est absolument positif et éternel. Quand vous entendez cette musique, elle pointe vers la croix et l'amour de Jésus-Christ. Voilà ce que l'on retient sur lui.
Effectivement, je retiens la dernière phrase. Quand vous entendez cette musique, ça vous pointe vers la croix et l'amour de Jésus-Christ. Holiness.
Holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness. What do you want for me, for me?
Voilà, on va aborder la première strophe. L'autre Laurent, il est dit dans la première strophe que la sainteté est ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce qui montre cela dans les Saintes Écritures?
Bien, là, il faut commencer par le commencement, bien entendu. Lorsqu'Adam et Ève avaient été créés, ils étaient saints. Ils étaient saints, donc Dieu ne pouvait pas leur donner des exhortations du genre soyez saints, parce qu'ils l'étaient déjà. Ils ont été créés saints purs parce que Dieu a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc Adam et Ève à l'origine étaient saints. C'est après la chute que l'on constate le besoin de revenir à l'état original et originel que Dieu leur avait accordé. Et là, lorsque Dieu amenait son peuple dans le désert, et comme ils étaient sur le point d'aller sur la terre promise, une terre, quand bien même bénie de Dieu, mais polluée par la présence des nations païennes. Dans Lévitique 20-26, Dieu dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. En d'autres termes, vous serez ce que je suis. Je suis saint de nature pour moi, vous devez être saints. Je vous ai séparés, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Alors, sous l'ancienne alliance, déjà, Dieu répétait au peuple d'Israël la nécessité de la sainteté. Et lorsque David avait demandé à Dieu, bon, Dieu, dis-moi, qui peut venir chez toi? Qui peut demeurer auprès de toi? Dieu lui dit dans Psaume 24, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Là, Dieu lui dit clairement, voilà la condition si tu veux venir au ciel. Voilà pourquoi dans sa chute, après sa chute bien entendu, lorsque David priait, il a dit à Dieu dans Psaume 51 verset 10, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Donc il comprend que c'est Dieu qui crée dans l'homme, dans l'être humain, un cœur pur. Personne ne vient au monde avec un cœur pur. D'accord? Bien, là, Dieu à travers le prophète Ézéchiel disait déjà au peuple, comme vous avez été dispersés là, quand vous allez revenir sur la terre promise, voilà ce que je veux faire de votre vie. Et ça, ce sera dans le cadre de la nouvelle alliance que je vais mettre sur pied. Alors en privé, il dit au prophète ceci, Ézéchiel 11, 19, « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Maintenant, à tout le peuple, il répète la même chose, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Dans l'original, quand on dit cœur de chair, ça veut dire qu'il est aussi sensible que la peau d'un nouveau-né. Vous savez, les enfants d'Israël, là où ils vivaient avec le climat, tout et tout, un nouveau-né, sa peau est très sensible. Donc, là, vous comprenez alors pourquoi, quand le Seigneur Jésus est venu, là, quand il est venu, c'est sur la terre promise, n'est-ce pas? Ils étaient déjà à Cana quand Jésus est venu. Et quand il prêchait au peuple sur la terre, cette terre promise-là, pour que s'accomplisse la nouvelle alliance, il leur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et un vrai juif sait qu'aucun être humain ne peut de lui-même dire, naturellement j'ai un cœur pur. C'est une œuvre que Dieu accomplit dans l'homme. Donc quand il dit ça, l'apôtre Paul viendra maintenant expliquer aux différentes églises, partout où il passe, dans ses épîtres, il parle de sainteté. Alors quand je prends l'église de Thessalonique, il dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ça veut dire encore une fois, Paul est en train de dire que c'est Dieu qui sanctifie. C'est lorsque l'homme regarde hors de Dieu, regarde à lui-même qui pense que c'est impossible. C'est Dieu qui sanctifie. Alors quand Dieu te dit dans sa parole, sanctifie-toi, c'est une façon de dire, éloigne de toi le péché, éloigne de toi l'iniquité, mais l'opération est faite par Dieu, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible, en d'autres termes, pur, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu dit ça? On est toujours dans cette épître-là. Dans le chapitre 4 maintenant, il dit le verset 3, ce que Dieu veut, donc c'est la volonté de Dieu ça, la question que tu m'as posée, Jean, oui, Dieu, voilà. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dieu ne nous appelle pas à l'impureté, il veut que nous soyons purs. Pourquoi? C'est ce qu'il avait donné à Adam et ils l'ont perdu, et c'est à cela qu'il nous appelle. Donc là, ici, il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. D'accord? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Maintenant, tu sais, devant une telle doctrine, il y a des gens qui vont rouspecter. Alors l'apôtre Paul a un message pour eux. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas Dieu. Ne rejette pas un homme, mais Dieu. Bon, vous rejetez le message de la sainteté, c'est Dieu que vous rejetez. Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Ceux qui ont véritablement l'Esprit de Dieu en eux soupirent après la nature de Dieu. Donc si quelqu'un vous dit qu'il est quoi, puissamment, ouin, triplement, ouin, tout et tout, et il n'aime pas la sainteté, ce n'est pas un serviteur de Dieu, quel que soit son titre. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en d'autres termes, c'est l'Esprit de sainteté. Et donc quand il est en nous, il produit en nous le vouloir, le désir d'être saint.
Très bien.
Donc, là, dans ce que je viens de t'expliquer, dans le chapitre 3, tu comprends pourquoi dans le chapitre 4, maintenant, il leur parle de l'enlèvement.
Très bien.
Donc, si tu n'es pas saint, tu ne peux pas être enlevé.
Très bien.
Avoir un cœur pur, c'est la garantie que quand la trompette sonne, tu pars. Ouais. Si tu n'as pas un cœur pur, la trompette sonne, tu ne vas nulle part.
Très bien. C'est compris, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu. Dieu voudrait que nous soyons sanctifiés. Il veut de nous la sainteté. Mais quand nous lisons bien la première strophe, en anglais, il dit dans la première strophe que c'est la sainteté que je désire, et il dit j'en ai besoin. En anglais, c'est ce qui est dit.
I long for.
Non, le deuxième vers, holiness is what I need. C'est ce dont j'ai besoin. Ouais, la sainteté est ce dont j'ai besoin.
Ouais.
Et maintenant, il vient, il dit la sainteté, c'est ce que Dieu cherche de moi. Donc, il cherche la sainteté.
Oui,
la sainteté.
Quand Dieu regarde quelqu'un qui dit qu'elle a été à la croix, Dieu doit voir la sainteté.
Ce qui est intéressant, c'est que Mike Stampley reconnaît qu'il a le besoin de la sanctification. C'est ce qui est intéressant dans cette chanson. Très bien. Et on peut passer à la deuxième strophe, là. Voilà, là-bas, il est dit, est-ce que righteousness, c'est la vérité vraiment en français?
Non.
Parce que en anglais, c'est autre chose, hein.
Ouais, ouais.
Righteousness is what I long for. Righteousness is what I need. Ouais. Bon, est-ce que vérité, je ne sais pas comment le traduire.
Righteousness, si on doit traduire en français, ça s'appelle c'est la droiture.
La droiture.
Ou la rectitude.
Très bien.
Tu vois?
Alors,
sous l'ancienne alliance, les deux thèmes sont souvent cités. La sainteté, un holiness and righteousness. C'est toujours de cette façon-là que ça se présente. Donc, là, on est toujours dans la dynamique de la nouvelle alliance.
Oui,
d'accord?
Oui.
Avant que cette nouvelle alliance ne soit annoncée, dans la prophétie que Zacharie a faite à la naissance de Jean-Baptiste, son fils, quand l'enfant allait recevoir son nom, il a dit que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et l'alliance est telle que Dieu est intervenu avec un serment. Et l'idée, c'est que les enfants d'Israël, quand ils seront, parce qu'en tout temps, ils vont être déportés, quand ils vont revenir et restaurer sur la terre promise, ils auront le privilège de servir Dieu en marchant dans la sainteté, en d'autres termes, en vivant dans la sainteté. Alors, dans Luc chapitre 1, verset 62, il dit ceci. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, nos ancêtres. D'accord? Et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, notre ancêtre, bien entendu, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir, de servir Dieu, d'accord? Sans crainte, en marchant devant lui, en vivant dans sa présence, dans la sainteté et dans la justice. Tu vois, c'est pour cela que l'auteur, au début, il a parlé de sainteté. Ensuite, il parle de justice. La sainteté, c'est la nature. La justice, maintenant, dans l'interaction, c'est ce que Dieu fait. Dieu agit avec justice. Il ne violera jamais la justice. Donc, si je fais une prière qui contredit la parole de Dieu, il ne m'exauce pas. Si ma prière est contraire à la justice de Dieu, il ne m'exauce pas. Donc, ici, dans la justice, tous les jours de notre vie. Donc, cette prophétie va se concrétiser dans la vie de chaque disciple de Christ, que ce soit un juif converti ou un païen converti. Et lorsque quelqu'un dit qu'il est enseignant de la saine doctrine et qu'il enseigne l'Église, le peuple de Dieu, le fond de l'enseignement, c'est ceci, c'est que vous n'avez pas appris Christ de la manière dont le font les gens du monde, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit, enseigné, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme. Ça veut dire un enseignement basé sur la sainte doctrine dira au peuple de Dieu de se dépouiller du péché et de vivre dans la pureté. Donc, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, righteousness, et une sainteté, holiness, que produit la vérité. Donc, au fur et à mesure que vous écoutez le message de Dieu, la vérité de Dieu, un changement se produit en vous. Vous soupirez après cette vie de justice, cette vie de sainteté. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu, que vous avez la nature de Christ, et on va voir dans votre vie les relents, les vestiges de l'impiété, de l'iniquité, de la mondanité. C'est pourquoi quand les gens, quand on dit, c'est le livre de Dieu qu'il faut prendre. C'est pas parce qu'on dit non, tout le monde le fait. C'est pas une question de tout le monde. C'est pas une question de majorité. Si tous les chrétiens du Togo se complaisent dans la mondanité, quand la trompette va sonner, ils n'iront nulle part. Mais s'ils choisissent de vivre dans la sainteté, quand la trompette va sonner, ils vont partir. Ça, c'est ce que la parole de Dieu est en train de dire. Donc, la justice de Dieu dont nous parlons ici nous est imputée par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est en raison du sang versé que Dieu nous impute la justice de Christ. C'est pour cela que Jean nous dira, 1 Jean chapitre 3 verset 7, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme Dieu lui-même est juste, ou bien comme Jésus est juste. Tu vois l'importance de la justice. Donc c'est la pratique. Donc est juste. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, tu vois. Celui qui n'est pas né de Dieu pratique le péché. Mais celui qui est né de Dieu pratique la justice. Et il dit, il ne peut pas pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui, parce qu'il est né de Dieu. Donc, c'est pas une question de, oh frère, et le message est trop dur. Il faut l'acclimater. C'est la parole de Dieu. Si Christ vous a sauvé, il vous délivre de l'influence du péché. Maintenant, si cette transformation-là, on ne la voit pas dans votre vie, par la victoire que vous avez sur le péché. La tentation se présente, ça on le sait. Mais vous devez vaincre la tentation et avoir la victoire sur le péché. Si tel n'est pas le cas, tu n'es pas encore converti. Christ ne t'a pas encore affranchi parce qu'il a déclaré solennellement, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre du péché.
Très bien. Cette chanson a amené beaucoup de personnes à l'interpréter. Là, nous allons écouter la version, vraiment la version adoration en anglais. Et après, maintenant, on va passer à la version française de cette chanson. Version anglaise.
Holiness, holiness,
adoration.
That's what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness, that's what you want from me.
just need you all over this place to ask him one more time for holiness. Sing it with me.
Faut dire en réalité que j'aime beaucoup plus cette version là que nous passons maintenant sur l'antenne. Et Laurent, nous allons aborder dès à présent, on va aborder le refrain. Là, j'aime et j'apprécie bien cette partie de la chanson parce que chaque mot qui est prononcé là a son sens. Hein, c'est, j'ai l'impression qu'il demande la sainteté, il demande à vivre la justice de Dieu, à vivre dans la droiture de Dieu. Et maintenant, il se dit, Dieu prend mon cœur, Seigneur, oui, prend mon cœur. Seigneur, et forme-le, oui, mes pensées transforme-les, ma volonté conforme-la à la tienne, Seigneur. Alors, que faut-il en comprendre? Que faut-il comprendre de ce passage-là, de cette partie de la chanson, le refrain?
Bien, ici, il est important de comprendre que nous avons parlé de la sainteté, n'est-ce pas? Il y a un aspect, dans la sainteté, il y a un double aspect, l'aspect humain et l'aspect divin.
Okay.
L'aspect humain, c'est la consécration. L'aspect divin, c'est l'acte même où Dieu intervient, quand la consécration agrée Dieu. Donc ici, il est question ici de la capitulation de l'homme, de la consécration à Dieu, en se donnant à Dieu volontairement et solennellement. Parce que lorsque vous prenez conscience que vous appartenez à Dieu, que votre corps appartient à Dieu, et que c'est un acte que vous avez posé, il y a des choses que vous ne voudriez pas faire. Et donc ici, vous comprenez pourquoi dans ce texte, il parle de cœur, il parle de pensée, il parle de volonté. Ça, tout ça, c'est allusion au niveau de les composantes de l'âme. Alors, dans Proverbe 23, verset 26, il dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. » Lorsque le cœur n'est pas donné à Dieu, n'est pas soumis à Dieu, n'est pas laissé à Dieu, pour être influencé par la parole de Dieu, ce cœur, de par sa nature, va être fourbe. Va être un cœur trompeur. Pourquoi? Tu sais souvent, bon, dans les Écritures, Jésus a dit, de l'abondance du cœur,
la bouche parle.
La bouche parle. Ouais. Et aujourd'hui, sans risquer de faire entorse aux Écritures, je peux aller jusqu'à dire, de l'abondance du cœur, la bouche parle et l'homme se comporte. Pourquoi? Dans Genèse chapitre 6, verset 5, il est écrit ceci. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement que vers le mal. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus le cœur originel, le cœur qu'Adam et Ève avaient là, ce cœur pur là, ils ne l'avaient plus. Donc maintenant, c'est un cœur contrefait qu'ils avaient. Et le dépôt de ce cœur là se manifeste par des actes de méchanceté. Et il en est de même dans tous les siècles. Hein. Si quelqu'un pose un acte de méchanceté, qu'il ne vous dise pas qu'il a un cœur pur. Lorsque quelqu'un tue au nom de Dieu, ce n'est pas avec un cœur pur. Lorsque quelqu'un souhaite le mal à son prochain, ce n'est pas avec un cœur pur. Quand on est pur, le cœur a les mêmes dispositions que le cœur de Jésus. Est-ce que Jésus souhaite que quelqu'un meure? Jésus veut que les gens se convertissent. Donc tu vois, ici, l'Éternel est en train de dire, quand il a vu l'homme là, il a vu que non. C'est parce que le cœur est mauvais, ce qui maintenant découle de ce cœur là est également mauvais. Lorsque David allait passer le témoin à son fils Salomon, il lui a clairement dit, 1 Chronique 28, verset 9, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, un cœur consacré, un cœur qui est entièrement à lui. » Et d'une âme bien disposée. Parce que quand ces deux choses vont manquer, tu vas te détacher de Dieu pour aller vers les faux dieux. Alors il dit, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. En d'autres termes, avant que tu ne poses un acte, Dieu sait pourquoi tu veux poser l'acte. Même si les gens ne savent pas. Personne ne peut tromper Dieu. Donc il dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais, si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Vers la fin de sa vie, Salomon a abandonné Dieu à cause de l'amour qu'il avait pour les femmes.
Okay.
Et ces femmes-là, en venant dans sa vie, venaient aussi avec leurs idoles. Et il est allé jusqu'à se prostrer. D'abord, il a construit les caveaux, les cavernes, les trucs là des idoles. Il est allé jusqu'à se prosterner devant les idoles. Et vous voyez un peu? Et là, quand vous lisez ça dans la Bible, ça fait peur. Quelqu'un qui a reçu des révélations. Ouais, le début là, c'est pas ce qui compte, c'est la fin. Donc ici, la volonté de Dieu là, si on comprend dans ce que l'auteur est en train de dire là, quand il parle de volonté, la volonté de Dieu, elle est différente de la volonté des hommes. D'accord? Autant il y a d'hommes sur la terre, autant il y a de volonté. Mais Dieu étant unique, il n'a qu'une volonté. Et cette volonté est révélée dans sa parole.
Très bien.
Donc cela ne permettra à personne de venir dire, ok, dans notre église, nous mettons l'accent sur X. Chez les autres, c'est sur Y. Non, la volonté de Dieu, c'est que ceux qui se convertissent vivent dans la sainteté. Cette volonté est pour toutes les dénominations, est pour tous les ministères.
Très bien.
Donc ici, l'homme a l'obligation d'accepter la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand le Seigneur enseignait à ses disciples, il dit que ta volonté soit faite sur la terre. Qui habite la terre? C'est nous les hommes, n'est-ce pas? Si tu es converti, la volonté de Dieu doit être faite dans ta vie. Parce qu'il a dit dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais pourquoi Seigneur? Mais celui-là seul, ce n'est pas une question de comité ou de majorité, c'est une question de décision personnelle. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cette volonté, c'est d'être pur.
Très bien.
C'est de maintenir une vie de pureté.
Très bien. Je vais vous relire les paroles du refrain. Prends mon cœur, Seigneur, et forme-le. Mes pensées, transforme-les, ma volonté, conforme-la à la tienne ou à la sienne, Seigneur. C'est pour vous dire qu'il est très important de donner toute sa vie entièrement à Dieu. Enfin, maintenant, écoutez, on va dès à présent écouter la version française de cette chanson qui nous a interprétée par David Mabilo. Je vous laisse écouter Sainteté ou Holiness en français.
Sainteté, sainteté, je désire. Sainteté dans ma vie, oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Tout le monde chante
sainteté,
oh,
sainteté, je désire.
Voilà, nous venons d'écouter, ou bien nous écoutons actuellement même la version française de cette chanson, Holiness ou Sainteté. On va aborder la dernière partie. C'est vrai que la dernière partie de la chanson en anglais n'est pas en français, mais on va quand même essayer de comprendre ce qui est dit dans cette partie de la chanson, couplet 3. Dès à présent, l'autre Laurent.
Très bien.
La troisième partie parle du brisement.
Oui, ça parle.
Est-ce que le brisement relève-t-il de la volonté de Dieu? Dieu voudrait que nous soyons brisés?
Bien sûr.
Ah bon?
Bien sûr. C'est lié d'abord au fait qu'après la chute, tu sais, avant la chute, l'esprit d'Adam contrôlait son âme et son corps. C'est pour cela qu'il était en harmonie avec Dieu. À la chute, il y a eu un revirement. L'âme maintenant contrôle l'esprit déchu. D'accord? L'âme et l'esprit ensemble déchu, c'est ce que Paul appelle par moment la chair. Et contrôle le corps. Donc là, l'une des composantes de l'âme, c'est la volonté. Et cette volonté-là, elle n'est pas prête à se soumettre à celle de Dieu. Alors pour que Dieu puisse agir, il faut briser ça. Le brisement, ça fait mal, mais l'objectif de Dieu, en brisant celui ou celle qu'il veut utiliser, c'est de l'aider à ne pas sombrer dans l'orgueil quand Dieu commence par l'utiliser. Ça c'est un. Deux, le brisement permet une croissance spirituelle, une maturité plus accrue. Mais le brisement, c'est un processus douloureux. Ça fait mal, ça fait pleurer. Parfois, ça intervient d'un seul coup par un événement qui secoue l'homme, qui l'amène même à dire, Dieu, je laisse tomber, ça va, je veux plus. Et à ce moment alors, le potentiel de Dieu dans la personne est libéré. Le degré de brisement est en adéquation avec le degré de la manifestation de la gloire de Dieu au travers de celui que Dieu utilise. Un serviteur de Dieu qui a été brisé comme Dieu le veut est utilisé comme Dieu le veut aussi. C'est pour cela que la même phrase que tu fais, quand lui le fait, il y aura un changement. Quand tu le fais, il n'y aura pas grand-chose. Parce que tu n'es pas brisé. Quand on n'est pas brisé, il y a l'orgueil. Quand on n'est pas brisé, on veut utiliser Dieu pour parvenir à ses fins. Quand on n'est pas brisé, on est rusé. On essaie. Tu as vu le brisement, un élément du brisement dans l'Ancien Testament, c'est ce qui est arrivé à Jacob. Dieu l'a brisé pour qu'il ne dépende plus, il ne s'appuie plus sur lui-même. Pour qu'il dépende entièrement de lui. C'est ce que Dieu veut. Dépend de moi entièrement. Quand il a été brisé, le résultat c'est quoi? Au-delà du fait qu'il s'est réconcilié avec son frère, le résultat final, c'est la prophétie qu'il a faite sur chacun de ses fils. Aussi longtemps qu'il n'était pas brisé, qu'il était contrôlé par le moi, il ne pouvait pas prophétiser. Il va faire quoi? Tout ce qu'il va dire là sera mélangé par sa vie à lui, son être à lui. Donc, le brisement, ça fait partie des mécanismes que Dieu utilise pour transformer nos vies. Quand vous prenez l'exemple de Paul sur la route de Damas, c'est ce qui lui est arrivé?
Le brisement.
Oui, ça c'est le brisement. Quand il a eu, ça l'a désarçonné, complètement désorienté, et il a dû apprendre au pied des gens qui ne connaissaient pas grand-chose de la Torah, de ceci, mais il s'est soumis à ça. Mais après maintenant, il y a tout un parcours de brisement aussi. C'est au point qu'à un moment donné de la vie de Paul pouvait pleurer parce que quelqu'un a péché et ne s'est pas converti. Alors qu'avant ça, Paul tuait même ceux qui se convertissaient. Tu vois? Donc le brisement, c'est un processus, ça prend du temps. Ça permet à la nature de Christ de devenir manifeste. Souvent, les serviteurs de Dieu, quand ils te parlent de comment ils sont parvenus, où ils sont là, tu vas te taire. Mais les gens ne voient que l'aspect populaire ou bien l'aspect connu. Mais c'est une œuvre que Dieu fait. Parce que déjà dans Psaume 51, il dit ceci. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu sais, il y a des moments où Dieu veut que tu pleures. Il veut là que dans ce que tu es en train de demander là, tu n'es pas encore parvenu au point de pleurer, de crier à Dieu. Quand tu vas arriver là, il intervient. Parce que le moi veut toujours contrôler tout. Dans Ésaïe 57, verset 15, il dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, de ranimer le cœur contrit. Là, dans d'autres versions, on va dire, je suis avec celui qui est écrasé et dont l'esprit est abaissé. Tu vois, donc ça fait partie de l'expérience chrétienne.
Si ça ne vous arrive pas au début de votre vie chrétienne, le long de votre vie, avant que vous ne quittiez cette terre, d'une manière ou d'une autre, un événement fâcheux arrivera où vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Un événement surviendra dans votre vie où vous serez obligé de ployer le genou et de reconnaître que Dieu, là, c'est lui le Tout-Puissant. Quand tu entends les gens dire des choses sur Dieu, nous maîtrisons l'Église, nous maîtrisons les enfants de Dieu, quand tu entends dire ça, là, tu te dis, ils ne connaissent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas qui est Jéhovah. Ils ne savent pas qui est le Tout-Puissant. Celui qui parle, personne ne parle. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Quand il ouvre, personne ne ferme. C'est comme ça Jésus est. Mais pour le moment, tout le monde a le vent en poupe, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais lorsque Dieu intervient, il impose silence aux vindicatifs. Donc quand un chrétien comprend ça, il y a des terrains sur lesquels tu n'oses pas poser le pied. Pourquoi les anges se cachent le visage, se cachent le corps devant le Saint des Saints? Mais nous, là, les rachetés, on ne comprend pas grand chose et on fait du bruit autour d'un Dieu que nous ne connaissons même pas et dont nous parlons. Donc, lorsque le brisement vient dans la vie de quelqu'un, il fait attention à ce qu'il dit au nom de Dieu, à ce qu'il prétend dire venant de Dieu. Parce qu'il sait que juste cette parole-là peut l'envoyer en enfer. Si Dieu n'a pas dit et tu dis, parle pas audace, tu risques de ne pas aller au ciel. Tu vois, donc Dieu, sa sainteté, ça fait peur. La crainte de Dieu, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. Ça te permet de savoir, Dieu là, il n'est pas ton égal. Donc le brisement, c'est un processus, ça fait partie de l'expérience chrétienne.
Vérité, vérité, dans ma vie. Vérité dans ma vie.
Oh, je désire.
Vérité, tu cherches en moi une vie de vérité. De vérité.
Tu cherches en moi une vie de sainteté. Tu cherches en moi une vie de vérité ou de droiture. Tu cherches en moi une vie brisée. On peut le dire comme ça, l'autre Laurent. Tu cherches en nous. Oui, le Seigneur cherche en nous une vie brisée. Oui. Complètement.
Non, parce que, tu vois, quand on ne comprend pas le concept de brisement, on a l'impression que Dieu veut nous voir malheureux. Non. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ce qu'il y a en nous, là, sa présence en nous devient manifeste. Tu vois, là, il est facile de comprendre ça. C'est parce que Pierre a eu sa part de brisement. Tu as lu dans les Écritures, non? Quand il a renié le Seigneur, quand le Seigneur l'a juste regardé. C'est la puissance de Jésus. C'est juste un regard et ça l'a brisé. Après ça, Pierre pouvait passer dans les rues et son ombre guérissait les gens. Parce que, aussi longtemps que ce vase d'albâtre n'est pas brisé, le parfum qui est dedans là ne peut pas exhaler. Tu vois, tu peux déposer sur la table que, bon, une boîte de parfum, tu ouvres, ça va sentir, n'est-ce pas? Mais suppose que ça tombe et ça se brise. Ça va sentir davantage et le rayonnement ou la circonférence, l'impact là sera plus... C'est ce que Dieu fait. Donc, à travers le brisement, il permet maintenant à Christ de devenir plus manifeste. Ok, tu vois un peu... Donc, c'est ça. C'est ce qui arrive, ça. Donc, quand vous prenez Saul de Tarse, vous examinez sa vie, au début de sa conversion, Pourquoi il s'est séparé de Barnabas? Il a parlé de qui? Il ne nous a pas, que Jean ne nous a pas accompagnés dans notre œuvre. Ça, c'est le mot, dans notre œuvre. Mon église, mon ceci, mais vers la fin de sa vie, il dira, fais venir Jean-Marc. J'en ai besoin de lui dans le ministère. Vers la fin de sa vie, il allait jusqu'à dire, Jésus est venu mourir pour tous les pécheurs, je suis le premier. Ça là, c'est le changement qui s'opère.
Le brisement qui s'est
opéré. Renouvellement de l'intelligence.
Très bien.
C'est là où tu te rends compte que tu n'es rien. Que ce que Dieu fait en toi, que ce que Dieu fait au travers de toi, c'est juste un privilège. Donc, là, si tu vois la chose sous cet angle, Dieu là, il ne nous regarde pas et dit, ok, comment je vais faire pour rendre ce frère ou ce fils, non, non, malheureux. Non. Son objectif n'est pas de nous rendre malheureux, mais de pouvoir manifester sa gloire. Et quand nous le faisons, d'être à l'abri de l'orgueil.
Très bien.
De ne pas nous attirer l'attention pour dire, je suis ceci, je suis ceci, non. Mais de demeurer humble en sachant que ce qu'il fait au travers de moi, je suis juste un serviteur inutile.
Le brisement.
Et je ne fais que ce qu'il m'a demandé de faire.
Très bien.
Et tu ne t'attires pas la gloire.
Le brisement est très important. Très bien. Alors, on va passer à la dernière partie, à la dernière question. Que faut-il retenir de ce chant? Partie 1. Que faut-il retenir dans la chanson en un mot?
Oui, mais la sainteté est indispensable pour aller au ciel.
Bien. Au niveau de la partie 2.
Ouais.
Righteousness, la droiture ou la
vérité. Oui. La justice et la vérité découlent d'un cœur sanctifié.
Très bien.
Lorsque quelqu'un dit qu'il est sanctifié, il a un cœur fourbe n'est pas de Dieu. Hein? Un cœur mesquin n'est pas de Dieu.
Quelqu'un qui est sanctifié, il a un cœur fourbe, il n'est pas de Dieu.
Et oui,
donc, en réalité, il n'est pas sanctifié. Il n'est même pas sanctifié.
Le cœur, quand le cœur est pur, les motifs sont purs. La personne peut faire des erreurs, mais les motifs sont purs.
Très bien.
C'est la différence entre celui qui il a l'apparence de la piété. Mais dans ces actes-là, tu discernes, ah, il a dit ça, il a fait ça. Tu sens en même temps que c'est une sainteté de façade.
Très bien.
Mais le cœur n'étant pas transformé, il manifeste sa méchanceté d'une manière plus raffinée.
Très bien.
Mais ici, la vérité ou la justice découle d'un cœur sanctifié.
Quand nous prenons le refrain, que faut-il retenir?
Du refrain, je dois décider de me consacrer à Dieu.
Moi-même.
Pour qu'il me sanctifie et pour que je puisse le servir dans la sainteté.
Et la partie 3, qui parle du brisement.
Oui, la partie 3 est tout à fait normale. Le brisement est nécessaire à la manifestation de la gloire de Dieu à travers un saint, à travers un disciple de Christ. C'est l'antidote de l'orgueil. Brisement, c'est l'antidote de l'orgueil. Cela favorise la croissance spirituelle et la maturité. En ce moment, vous comprendrez pourquoi Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quand le brisement vient, à chaque fois qu'il vient, dans un domaine donné, Jésus va croître. Il devient plus manifeste, sa nature devient plus manifeste. Et le moi commence par se mettre de côté pour que la gloire soit toujours attribuée à Dieu.
Merci l'autre Laurent, on va finir ainsi. Je relis rapidement les paroles de la version française. Sainteté, sainteté, je désire, sainteté dans ma vie, sainteté. Tu cherches en moi une vie de sainteté. Vérité, vérité, dans ma vie, je désire, vérité, tu cherches en moi une vie de vérité. Oui, prends mon cœur, Seigneur, et forme-le. Mes pensées, transforme-les, ma volonté, conforme-la à la tienne, Seigneur. Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie. Sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté. Nous vous laissons avec la version française. Et si le Seigneur tardait à revenir, on se retrouvera la semaine prochaine, dimanche prochain, même émission, avec un autre chant à commenter ou à étudier. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de la JVA. Bye bye.
Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Tout le monde chante
sainteté,
oh,
sainteté. Je désire,
sainteté
dans ma vie.
Oh,
sainteté,
sainteté,
cherche en moi.
vérité.